Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, hein, bien sûr, d'être là avec vous. Peu de temps après mon dernier cours, et c'est pour la bonne raison que je vais continuer, hein, à vous donner mon éclairage. Il peut y en avoir divers, hein. Comme vous le savez, c'est une question très partagée, la transition énergétique, bien sûr. Mon éclairage sur un certain nombre de questions liées à la transition énergétique. Donc très heureux de parler de nouvelles choses, en même temps de redire un certain nombre de points, comme vous allez le voir, mais il faut vraiment avoir en tête la base pour produire, je dirais, une vision pour l'avenir. Alors, comme d'habitude, c'est ce qu'on voit ici, hein. C'est le programme, comme d'habitude, je n'ai pas changé de stratégie, un cours d'une heure et un séminaire par un ou une spécialiste qui va nous parler de sa recherche pour éclairer un certain nombre de choses que je vais raconter. Voilà, donc vous connaissez ça puisque vous êtes là. Ce cours se terminera, je crois, par un colloque très intéressant, le mercredi 28 février, qui va durer toute la journée, dans la matinée, nous aurons plutôt des économistes, des politiques, qui nous parleront de politique énergétique, de souveraineté énergétique, de marché de l'électricité, de l'Europe de l'énergie. Et puis l'après-midi, je souhaitais promouvoir des innovations françaises en invitant des responsables de start-up ou de compagnies qui développent des choses très intéressantes. Utile, probablement, pas tout de suite, toujours, mais pour la transition. Aujourd'hui, nous avons Claude Grison que je présenterai tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est expliquer pourquoi c'est si important de se préoccuper de la question de la biomasse. Et en fait, on va retomber sur les fossiles. Donc il faut redire où on en est, parce que, alors vous avez, on a reparlé des fossiles il n'y a pas longtemps, hein, ceux qui ont suivi et suivent ces affaires-là, vous avez peut-être entendu que le débat revenait à propos de la COP 28, hein, qui s'est tenue il n'y a pas longtemps. Succès ou échec, enfin chacun voudra le penser comme il veut, c'est pas le propos, mais on est revenu sur la question, évidemment, triviale, il faut remplacer les énergies fossiles. La question que je vais traiter aujourd'hui, c'est, au fond, par quoi ? Et expliquer pourquoi la biomasse vient dans le schéma pour répondre à cette question. Et ça va m'amener à parler d'une chose dont on parle rarement, y compris dans les scénarios, c'est finalement la part non électrique. C'est assez étonnant parce que, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dès qu'on parle de transition énergétique, dès qu'on parle d'énergie, au fond, très très vite, on finit sur l'électricité. C'est nucléaire, c'est éolien, c'est solaire, et on oublie que ce n'est aujourd'hui que 25% de notre consommation énergétique, et que même si, et c'est probablement le cas, on va augmenter notre part électrique, ça ne sera jamais 100%. Donc il y a une partie qui est non électrique qu'il faut traiter, et aujourd'hui, comme vous allez le voir, elle est essentiellement fossile. Je vais quand même profiter de cette occasion pour rappeler, je vais reparler de fossiles, pour donner quelques informations qui ont été données entre cet été ces derniers jours en ce qui concerne la problématique de remplacement des fossiles et l'état de la situation. Comme vous allez le voir, c'est pas simple, et ça nous montrera que c'est pas parce que la France ou quelques pays feront des efforts colossaux que ça sera résolu, parce que c'est un problème global et c'est une des grandes difficultés. Bon, ça, vous le savez, c'est pour rappeler que, vous voyez, charbon, pétrole, gaz en violet, Donc c'est toujours la même histoire. Depuis le temps qu'on dit qu'il faut diminuer ça, c'est toujours 80% de, plus de 80% des fossiles pour notre consommation d'énergie. Ça bouge pratiquement pas. Donc c'est ce qui est dit ici, vous voyez, à l'échelle mondiale, 160 000 TWh d'énergie, et à nouveau on retrouve ici les proportions gaz, charbon, pétrole, donc plus de 80% de cette énergie vient des énergies fossiles, et ça n'a pratiquement pas changé depuis 30 ans. Et ça ne va pas changer. Ça, c'est un. Je vous donne quelques informations recueillies entre cet été, donc après mon cours précédent. Donc ça, c'est l'Energy Institute. Hein, c'est un rapport régulier chaque année, à peu près à la même époque, pendant l'été. Ici, c'est celui de 2023. Et vous voyez que la conclusion, c'est la même. Je pense, j'ai pas vu les rapports précédents. Enfin, je les ai vus, mais je suis pas remonté très loin. Mais je pense que cette phrase, elle est dans ces rapports depuis la nuit des temps. Les carburants fossiles représentent 82% du total des énergies consommées et les émissions de CO2 ont augmenté. Et vous voyez que c'est particulièrement compliqué parce que ça se passe dans un contexte où on n'a jamais installé autant d'énergies renouvelables. Et ça ne bouge pas. Les énergies renouvelables ont bénéficié en 2022 de la plus forte augmentation de capacité de production d'énergie solaire et éolienne pour parvenir conjointement à une part record de 12% de la génération d'électricité. Alors, il faut faire attention, hein, à nouveau, la génération d'électricité, l'électrique, c'est, alors j'ai dit 25% tout à l'heure, ça c'est pour la France, c'est 17% à l'échelle mondiale. Donc c'est 12% de 17%, hein, donc il faut faire attention à ce type de chiffres. Donc, nous sommes toujours dans cette situation-là. Et en août, l'Agence internationale de l'énergie nous dit, en 2023, et ça a été confirmé, la demande de pétrole n'a jamais été aussi élevée. Vous voyez, à peu près une centaine de millions de barils par jour, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Ici, il y a quelques semaines, un autre rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit que la consommation mondiale de charbon n'a jamais été aussi élevée. Vous voyez, 8,5 milliards de tonnes en 2023. Donc ça a augmenté, bien sûr, hein, puisque c'est la plus élevée. Mais comme on peut le voir, c'est que si la consommation recule significativement, hein, dans l'Union européenne, c'est moins 20% en 2023. Eh bien, malgré tout, à l'échelle mondiale, ça a augmenté, et ça a augmenté jusqu'à un record. Et comme vous le voyez, à nouveau, c'est pour répéter cette complexité due à la globalité du problème. Nous ne sommes pas seuls sur la planète, il faut que cette politique soit menée globalement, et on voit bien que, pour le moment, un certain nombre de pays ne peuvent pas faire, ou ne savent pas faire, ou je ne dis pas ne veulent pas faire, parce que c'est pas vrai. Vous voyez, l'Inde, plus 8% de consommation de charbon, la Chine, plus 5%. Voilà. Donc je rappelle, le charbon, c'est la première source d'énergie pour produire de l'électricité, de l'acier, du ciment, enfin, etc. On retrouve un peu partout, hein, malheureusement, on peut dire, ou en tout cas parce que c'est une nécessité sans doute, plusieurs pays continuent à s'enthousiasmer, hein, pour ces sources d'énergie. Vous voyez, Royaume-Uni, le gouvernement annonce une centaine de nouveaux permis d'exploitation de gaz et de pétrole en mer du Nord. Et le Premier ministre justifie cette décision en disant bah, « c'est comme ça que je construis l'indépendance énergétique de mon pays et que je produis des ressources qui m'amèneront à financer la transition énergétique ». C'est souvent un argument, hein, qui est utilisé. Mais voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Et si on se projette plus loin, 2045-2050, tout indique, je prends ici un rapport de l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, vous voyez, récent, hein, également ce rapport qui est régulier, hein, chaque année. Vous voyez ici, ces gens-là nous disent, ne nous disent pas qu'il y aura moins de production, de consommation de pétrole et de charbon en 2045-2050. Hein. Ils nous disent qu'il y en aura plus. C'est leur analyse. Ici, vous voyez, c'est une augmentation de 23% d'ici 2045. Ici, bon, c'est un tableau un peu compliqué, mais si vous regardez le pétrole, ici, 2022, 90, 106 en 2045. Hein, voilà. Et, alors, le charbon va diminuer, mais vous voyez que pétrole et gaz, ça augmente. Et si vous regardez par ailleurs les augmentations du nucléaire, de l'hydroélectricité, de la biomasse, des autres renouvelables qui sont, vous voyez, c'est important, hein, 7 à 42, et vous calculez le pourcentage des fossiles en 2022, c'est 80%, et en 2045, c'est presque 70%, donc on n'est pas à zéro carbone là. Hein. Voilà dans quelle situation nous sommes. La France, alors ça je l'ai déjà montré, vous en souvenez, hein, la consommation d'énergie, on va prendre ce chiffre, alors parfois on vous dit 1700, parfois 1600, bon, je prends 1600 TWh, la consommation totale d'énergie, et à nouveau vous remarquez que, alors ça c'est en 2019, il y a eu une forte consommation électrique, et une forte production électrique. Les choses s'arrangent aujourd'hui, comme vous allez le voir. Et vous voyez que pétrole, gaz, c'est 965. La France est un pays vertueux, parce qu'il n'est pas à 80% de fossiles, il est à 60%. Et ça, c'est dû à une électricité, je l'ai déjà dit, très, très décarbonée. Je le rappelle parce que ça, j'aurai l'occasion de le redire plusieurs fois. J'ai déjà montré ça, mais c'est extrêmement important. Souvent, c'est oublié. Une très grande partie de notre consommation d'énergie est due à la production de chaleur. Vous voyez, à presque 700 TWh sur les 1600, c'est de la production de chaleur. Production de chaleur pour le chauffage, hein, et l'eau chaude dans nos habitations partout en France, production de chaleur massive dans l'industrie, hein, pour alimenter des procédés qui ont besoin de chaleur, production de froid, etc. Et comme on le voit ici, voyez, c'est y a une part de renouvelable, hein, qui est utilisée pour la production de chaleur, et le bois. Et là, on commence à avoir, évidemment, je vais parler du bois. Hein. Le bois est un contributeur significatif de la production de chaleur en France, mais à nouveau, vous voyez que 77% de la production de chaleur, ce sont des fossiles, gaz et fioul. Donc voilà la situation. Et en ce qui concerne la production électrique, c'est juste pour rappeler que nous sommes... et c'est aujourd'hui maintenant le cas à nouveau, nous sommes producteurs d'électricité et nous produisons plus que nous consommons, donc nous sommes en temps normal exportateurs d'électricité, hein, ce qui fait des ressources pour la France, exportateurs d'électricité, et ce qui est intéressant, c'est une électricité décarbonée, hein, grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité. Donc nous fournissons à nos voisins de l'énergie décarbonée, et comme vous le voyez, donc c'est une production électrique autour de 500 TWh, le nucléaire est une part très importante, ici c'est un peu plus qu'aujourd'hui, même si on est déjà revenu à 320-330 TWh, hein, de production électrique nucléaire, après quelques déboires en 2022, et comme vous le voyez, il y a un peu de gaz qui est utilisé pour la production électrique, mais qu'une petite partie, et un peu de biomasse déjà. Le 3 janvier 2024, Nous n'avons, c'est un jour où nous avons atteint un record d'exportation d'électricité en France. Donc vous voyez, c'est il n'y a pas longtemps. Donc nous avons retrouvé notre capacité de production électrique et d'exportation. Donc jamais la France n'avait autant exporté d'électricité. C'est 20 gigawatts. Donc vous voyez les pays qui en profitent. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Et c'est non seulement à cause d'un retour du nucléaire, parce que les réacteurs fonctionnent bien, les problèmes de corrosion sous contrainte, les difficultés de certains réacteurs ont été résolues, mais aussi parce que c'était une période où il y a eu une production éolienne historique. Et donc le résultat de tout ça, c'est que nous avons aussi atteint une forme de record dans les émissions de CO2, 17 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite au moment du pic d'exportation. Et regardez la comparaison avec l'ensemble des autres pays européens où on exporte, avec le record du monde, non, enfin, le record européen étant l'Allemagne, 196, c'est 10 fois plus. Donc ceci valide d'une certaine façon la situation française, me semble-t-il, que j'ai déjà expliqué, et valide d'une certaine façon cette approche d'électricité décarbonée. Voilà. Le pétrole, vous voyez ici, c'est essentiellement, alors on y reviendra, c'est essentiellement le transport, mais il y a tout un tas d'autres usages, bien sûr, qui sont indiqués ici, mais en orange, c'est le transport. Donc on verra que dans ce qu'on discutera, le transport va être une cible importante à traiter dans la vision diminuer notre consommation de ressources fossiles. Et puis, vous voyez, en gris, c'est la seconde position. C'est des usages non énergétiques et c'est essentiellement la pétrochimie. Hein. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on oublie que les fossiles, c'est pas que de l'énergie, c'est du carbone. Et nous avons besoin de carbone. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tout autour de nous est du carbone. On aura besoin de carbone en 2050. Et aujourd'hui, ce carbone, ce produit carboné, cette partie grise, c'est presque à 90%. La production de polymères. Ça, c'est une partie extrêmement... c'est la partie la plus importante de la pétrochimie. C'est la production de polymères. Et demain, on aura besoin de polymères. Simplement, voilà, une question, c'est comment remplacer le pétrole pour produire tous ces produits carbonés. Comment remplacer le pétrole pour le transport? Voilà la question qui est posée. Ça, c'est pour la partie pétrole. Pour la partie gaz, puisque là aussi, l'idée, c'est de remplacer le gaz naturel. Je rappelle que j'aurais pu le dire à l'occasion du pétrole, mais je redis ici, vous voyez, le gaz naturel, tout ça est importé à presque 100%. Nous ne produisons pas, nous sommes un pays qui ne produit pas de pétrole, pas de gaz. Et comme vous le voyez, ici, le gaz, c'est surtout... le résidentiel, donc c'est le chauffage, c'est l'industrie, a des valeurs extrêmement élevées. Donc voilà, aujourd'hui c'est la situation. Ah oui, bon, je rappelle ça, c'est intéressant de noter que il nous reste quelques centrales à charbon qui fonctionnent en France, alors qu'on avait dit qu'on les arrêterait un peu avant, mais elles fonctionnent toujours. D'ailleurs, en Europe, je l'ai montré l'année dernière, énormément de centrales à charbon existent, notamment dans les pays comme l'Allemagne. Mais nous avons quand même des infrastructures extrêmement importantes pour le gaz. Nous avons un certain nombre de centrales thermiques à gaz. Ici, elles sont représentées sur la carte. Et puis aussi, et ça c'est très important parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra exploiter, la France a aussi mis en place, la France et l'Europe, des réseaux de distribution de gaz extrêmement importants. Vous les voyez ici. Et je crois que vous voyez, à l'échelle de l'Europe, le gaz circule massivement d'un pays à l'autre. Alors, il circule aussi de la Russie à l'Allemagne, et on sait que ce fut un problème, et ça l'est encore, puisque le gaz russe était une ressource assez massive pour l'Allemagne en particulier, mais pour l'Europe, et que, évidemment, aujourd'hui, cette ressource est diminuée. Mais vous voyez, l'organisation, et évidemment, tout ça peut-être exploité, on le redira, peut-être exploité, y compris dans une situation où ce n'est plus du gaz naturel, mais d'autres formes de gaz qui sont exploitées. Ces infrastructures existent. Alors, ça aussi, je le rappelle, parce que c'est quand même maintenant le scénario 2050. Aujourd'hui, la France, notre pays, s'est donné cet objectif que vous voyez très simplifié ici, qui est décrit dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui subit plusieurs développements au cours du temps, mais en gros c'est toujours la même chose. C'est la loi de 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui nous dit, ben voilà, on vise pour à la fois se débarrasser des fossiles et pour diminuer nos consommations d'énergie, pour diminuer nos émissions de CO2, on vise trois choses. Un, la baisse de consommation d'énergie. Ici, c'est 930 TWh d'énergie finale, de consommation d'énergie finale. Il y a différents scénarios qui tournent autour de 1000 TWh. Il y en a d'autres qui sont plus élevés. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est toujours à peu près ces chiffres-là. Je montrerai le scénario RTE qui parle de 1100 TWh, mais bon, voilà, on est autour de 1000 TWh. C'est une chute absolument drastique. Je l'ai déjà dit, je pense, objectif probablement inatteignable. Deuxième élément, augmentation de l'électricité, et ça, c'est logique. Enfin, c'est logique si on pense que diminuer la consommation des fossiles passe par une électrification de tout un tas de secteurs, l'automobile, c'est déjà parti, l'industrie, il y a des efforts dans ce sens, le chauffage, les pompes à chaleur, enfin, etc. Donc, il y a une électrification, donc c'est assez logique d'imaginer une montée de l'électricité. Cette baisse de la consommation et cette montée de l'électricité conduit à une part, et c'est à ça que je vais m'attacher à partir de maintenant, une part non électrique qui est ici, qui est aujourd'hui massive, ici, vous voyez. C'est 450 à enlever à 1600, donc c'est plus de 1000 TWh, qui est aujourd'hui du pétrole, du charbon, du gaz, on a très peu de charbon, mais du gaz, etc. Et puis un peu d'énergie décarbonée, ici, le bois, vous verrez les valeurs pour le bois en France, le bois, des biocarburants déjà, enfin, etc. Et en 2050, tout le noir ici a disparu, donc c'est l'hypothèse. Enfin, en même temps, je vous ai montré tout à l'heure que les scénarios montraient bien qu'il n'y aurait pas zéro fossile en 2050, mais en tout cas, c'est le schéma français, zéro. Et donc la partie non électrique est grise, c'est-à-dire bas carbone. Alors, très souvent d'ailleurs dans la littérature de ces scénarios, vous verrez, vous entendrez parler de biométhane décarboné. C'est assez curieux de parler d'une molécule CH4 qui soit décarbonée, mais enfin, c'est comme ça, c'est de la com. Mais voilà, et l'objectif, c'est que tout ça soit non fossile. Donc c'est de ça dont je vais parler pendant 7 heures et les 2 heures suivante. C'est comment tout ça devient bas carbone. Pas décarboné, parce que ça, c'est du carbone. Hein. Tout ça, c'est du carbone. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. La partie non électrique, c'est essentiellement du carbone. Alors, il y a un peu d'hydrogène là-dedans, je parlerai d'hydrogène. Hein. Enfin, l'hydrogène, c'est de l'électricité, hein, pour l'essentiel. On verra, il faut faire gaffe à ça. Mais, je voudrais vraiment que vous compreniez bien ça, c'est que il nous reste pas loin, et alors peut-être il y a le scénario RTE ici, voilà, le scénario de référence. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais pendant l'été, ou un peu avant l'été, RTE nous a dit, et moi j'ai trouvé ça sympathique, puisque l'Académie des sciences et l'Académie des technologies, quand les scénarios RTE 2021 sont sortis, ceux-là, annonçant un objectif de 640 TWh d'électricité en 2050, ces académies avaient dit, ça colle pas. L'électrification qu'on prévoit, c'est plutôt 750-800 TWh d'électricité dont nous aurons besoin. Enfin, si on électrifie tout ce qu'on a dit qu'on électrifierait. Et un peu avant l'été, RTE a sorti une note disant que les 640, il faudrait les atteindre en 2030, je crois. Donc la montée... restons sur ce schéma-là, et c'est à nouveau la même, vision, augmentation de l'électricité, hein, comme vous le voyez ici. Alors ici, point d'interrogation, parce que le point d'interrogation, il porte sur la question quelle sera la part de nucléaire versus les énergies éoliennes solaires, donc je vais pas parler de ça, je vais me concentrer sur la partie au-dessus. Cette partie grise, vous voyez ici, elle est essentiellement un peu de charbon, plein de pétrole, du gaz et quelque chose de décarboné, de bas carbone. Hein. Et demain, tout ça, c'est à peu près la même couleur, mais ça doit être, c'est ce qui est dit ici, du gaz, alors à nouveau décarboné, du bois, des biocarburants, des déchets, etc. Donc là, on voit apparaître tout de suite la proposition qu'il n'y a plus de fossiles en 2050 et que de façon pas très précise, on nous dit c'est un certain nombre de choses, et c'est là qu'apparaît très massivement la biomasse, puisque dès que vous voyez ça, bois, biocarburant, déchets, et puis ici le gaz décarboné, c'est beaucoup du biogaz. Donc voilà à quoi on arrive, en effet, on se trouve dans une situation où, si la partie électrique est relativement bien traitée dans les scénarios, et au fond, enfin, il faut dire les choses, c'est la partie la plus facile, dont on parle assez peu. Alors, facile, c'est super compliqué, mais c'est la plus facile, parce qu'on sait que, en tout cas pour un pays comme la France, on peut faire du nucléaire, on peut faire plus d'éolien, on peut faire plus de solaire, enfin on peut varier les proportions, mais on sait à peu près ce qu'il faut faire pour faire de l'électricité. Par contre, remplacer du fossile par une autre forme de carbone, c'est beaucoup plus difficile, et je continue à penser que cette partie-là est assez mal traitée dans les scénarios, assez mal évaluée, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous en parler aujourd'hui et pendant deux autres cours. Ça c'était juste pour vous voyez, c'était juin 2023, RTE qui corrigeait ce que je vous ai dit, hein. C'est juste pour vous donner le communiqué réel, hein, de RTE. La consommation d'électricité devrait fortement augmenter en France pour se substituer aux énergies fossiles. Et puis, ceci va entraîner une nette hausse de la consommation d'électricité à l'horizon 2035, vous voyez. Ça peut aller jusqu'à 640 TWh en 2035. Donc c'est une correction par rapport au scénario dit de référence que je vous ai déjà présenté, qui disait 640 TWh, c'est 2050. En fait, ça sera plus, donc si on suit une sorte de croissance linéaire, on arrivera pas loin de 750 TWh, presque 800, et c'est les chiffres qu'on avait annoncés à l'Académie des sciences et à l'Académie des technologies. Voilà. Alors, quels sont les... Donc voilà la problématique. D'une part, il faut trouver 450-500 TWh d'énergie non fossile, pas électrique. C'est le résultat d'une baisse considérable, hein. Mais on peut comprendre que c'est logique, qu'il y a une baisse là, dans cette partie-là. Parce qu'il va y avoir un basculement, ouais, j'aurais pu le mentionner, il va y avoir un basculement d'un certain nombre de secteurs qui étaient alimentés par du noir ici, des fossiles, qui seront alimentés par de l'électricité. Hein, transport, chauffage, etc. Donc c'est assez logique que ça diminue. Mais enfin, 500 TWh, c'est colossal, hein, comme quantité d'énergie. Avec zéro fossile, comment on fait? Et quels sont, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces nouvelles sources d'énergie bas carbone? On doit fournir du chauffage, un peu partout, résidentiel, tertiaire, enfin, dans tous les bâtiments, de la chaleur pour l'industrie, des transports. Ah, je l'ai dit, on va le redire parce que je passerai une heure sur la question de la mobilité. Ça sera le quatrième cours. Tous les transports ne sont pas électrifiables. On en discutera. Lesquels, quelles proportions? Bon, la voiture individuelle est partie pour être électrifiée assez massivement. Voilà, il y a un certain nombre. Enfin, pour le moment. Personnellement, j'ai pas très envie de monter dans un avion avec une batterie électrique, par exemple. Donc typiquement, transport maritime et aérien, transport très lourd, aura besoin, enfin, c'est ma position, aura besoin de carburant liquide encore. Si c'est pas du pétrole, qu'est-ce que ça sera? L'industrie chimique, ça je l'ai dit, hein. On a besoin de carbone pour faire des polymères, des plastiques, des textiles, des médicaments, enfin, etc., etc. Et puis, la flexibilité électrique. Je vous le rappelle. À nouveau, c'est un point très, pour moi très important. Je redis les chiffres. Et je le représenterai quand je parlerai de l'hydrogène, parce que l'hydrogène est aujourd'hui proposé comme un mécanisme de potentiel de contribution à la flexibilité électrique. Hein, ce qu'on appelle la flexibilité électrique, c'est le fait qu'à tout moment, il faut équilibrer l'offre et la demande électrique, et qu'il faut tout un tas d'outils pour, en permanence, hein, je dirais à la minute près, avoir cet équilibre-là. Et ça se pose en particulier au moment des fortes demandes électriques. Bon, ici j'ai mis 2017, mais disons que les maximums de, enfin en latin on dit les maxima même, les maxima de puissance demandée en France, c'est autour de 95 gigawatts. Donc aujourd'hui on sait faire parce qu'on a plein de nucléaire. On a un peu de pilotable gaz-charbon, hein. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y avait une partie gaz dans la production électrique, on a de l'hydraulique, puis on a tout un tas d'outils, des interconnexions, si on est en manque d'électricité, on peut aller en chercher ailleurs, alors si on le prend de l'Allemagne, il ne sera pas très décarboné, mais c'est comme ça. Et puis on a des effacements, hein, c'est-à-dire on dit à certaines industries, entreprises d'arrêter, notamment les plus énergivores, d'arrêter de consommer, enfin, etc. Et on arrive à la puissance demandée. Demain, c'est un calcul assez simple, demain, avec beaucoup plus d'électricité, 640 scénario de référence ou 750, ici j'ai fait ça pour le scénario de référence, c'est beaucoup plus de puissance, c'est quelque chose de 130, de l'ordre de 130 gigawatts dont on aura besoin dans certains pics de demande. L'hiver, quand il fait très froid, quand tout le monde rentre chez soi, recharge sa voiture électrique, etc., etc. Alors, ici, j'ai un schéma où je sors 60 gigawatts de nucléaire, qui est à peu près la puissance installée, hein, mais, ça veut dire que j'ai quand même pas mal poussé, Certains scénarios nous disent plus, hein, d'autres moins. Donc vous verrez que le résultat final, la partie verte, dépend, en effet, pour la France, du niveau de nucléaire que nous aurons. Plus on descend ici, plus le vert sera grand, et plus on monte, plus le vert sera petit. Mais 60 gigawatts, la partie hydroélectrique un petit peu augmentée, 5 gigawatts de plus, des effacements un peu plus grands, un peu plus d'interconnexion, mais il y a ce vert qui manque. Et il manque 20 gigawatts dans un schéma comme ça. On ne peut pas se permettre de manquer de 20 gigawatts. Tout explose. Enfin, tout s'arrête, c'est le blackout complet. Voilà, donc ça, ce n'est pas possible. Donc, comment on les fournit, ces 20 gigawatts? C'est colossal, hein. Bah, soit on a encore du gaz naturel. Il y a des chances que ça soit beaucoup comme ça, malheureusement. Peut-être que la transition énergétique française, ça sera plus de centrales à gaz. Si ce gaz est décarboné, si c'est du biogaz, et on va parler de ça, hein, à partir de très bientôt, pendant les deux autres heures aussi, c'est une solution. Alors, les centrales à gaz, hein, elles sont formidables, hein, puisque leur pilotabilité est excellente. On peut, je dirais, pour simplifier, à tout moment, tourner un bouton, monter la production, la baisser, enfin, et s'adapter. On peut aussi, et c'est souvent présenté ça, dans les scénarios, même si aujourd'hui on est incapable de le faire, hein, et je ne sais pas si on sera capable, mais en tout cas les gens y travaillent, c'est stocker, au moment de ce pic, on est en hiver, il fait très froid, il faut forcer la production électrique. Si on a pu, l'été par exemple, où il y avait plein de vent, plein de soleil, etc., stocker de l'énergie, alors, et la ressortir à ce moment-là, effectivement, c'est une contribution qui est importante. Et ici, le problème, c'est que je mets batterie électrique, mais les batteries électriques, ce n'est pas un outil de stockage intersaisonnier. Vous ne pouvez pas stocker de l'électricité dans une batterie en juin et la ressortir au mois de janvier. Par contre, l'hydrogène, c'est le cas. Mais vous verrez, on en discutera, c'est une assez mauvaise solution. Donc, pour le moment, c'est très, très difficile. Donc, il faudra, ici, sortir quelque chose qui sera sûrement carboné, soit ça sera du gaz naturel, soit ça sera un autre gaz. C'est ça que j'entends ici par cet aspect de flexibilité électrique. Alors justement, ces substituts, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment 36 solutions. Elles sont là. C'est soit de la biomasse, et donc là, on est dans les biocarburants liquides, on est dans le bois, on est dans le biogaz, le biométhane. Et cette partie-là, cette contribution-là, est une des contributions les plus importantes dans tous les scénarios. C'est celle qui alimente en très grande partie les 500 TWh dont j'ai parlé. Et la question que je poserai dans mon troisième cours, c'est est-ce qu'on les a, les 500 TWh? Est-ce qu'on a 500 TWh de biomasse qu'on peut convertir en tout ça? Et à cette occasion-là, j'ai invité Julien Fosse, qui est un de ceux qui, à l'époque où il était à France Stratégie, a essayé, comme d'autres, hein, comme l'ADEME, comme d'évaluer notre potentiel de biomasse, et en particulier de biomasse agricole. Alors je vais parler de ça. Et puis il y a une autre partie, mais c'est de l'électricité. C'est ce qu'on appelle les e-carburants, les carburants de synthèse. Alors i pour électrique, hein. Carburant liquide de synthèse, gaz de synthèse, e-méthane, hydrogène, etc. Alors pourquoi c'est de l'électricité? Parce que c'est essentiellement la valorisation d'une autre source de carbone qui est le CO2 lui-même, qui viendrait de CO2 capté Alors pour le moment, pas dans l'air, hein, ce qu'on appelle le Direct Air Capture, DAC, capture directe de l'air. Pour le moment, ça ne marche pas, mais il y a des gens qui y travaillent. Et c'est la valorisation de ce CO2, et cette valorisation, elle passe soit par injecter des électrons, donc c'est ce que nous faisons au laboratoire ici, injecter des électrons dans le CO2, soit les injecter dans l'eau pour faire de l'hydrogène, et ensuite faire réagir de l'hydrogène sur du CO2. Pour faire tout un tas d'hydrocarbures, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est faire des hydrocarbures à partir de CO2. Mais voilà, donc ça, je n'en parlerai pas cette année, ou épisodiquement, puisque je vais me concentrer sur la biomasse. J'en parlerai l'année prochaine pour toute cette partie, capture du CO2, valorisation du CO2, e-carburant, etc. Donc je vais me concentrer sur la biomasse. C'est un long développement pour arriver là, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre la... Pourquoi cette question de biomasse est si importante? Alors, pour faire ça, évidemment, je ne suis pas le premier à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la biomasse, qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vous invite, en mars 2023, il y a eu un rapport de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui est assez intéressant. Il y a l'Académie des sciences et l'Académie d'agriculture qui ont produit une chose intéressante sur les forêts françaises. Sur le gaz, il y a l'AFG. Il y a France Stratégie. Ça, je citerai ses travaux. Vous voyez, la biomasse agricole, quelle ressource pour quel potentiel énergétique. L'ADEME, GRDF, GRT Gaz, enfin, etc. J'ai évidemment utilisé toutes ces données. L'Académie des sciences, alors comme vous le savez, hein, je préside le comité énergie de l'Académie des sciences et nous avons travaillé pendant un an sur cette question. Ça tombait bien, enfin, ou peut-être j'ai fait en sorte de vous parler de ce sujet parce que justement j'étais aussi sur le rapport de l'Académie des sciences sur la biomasse. J'ai présenté ce rapport hier, devant le comité restreint, il est fini, le comité restreint de l'Académie des sciences, il a été validé, donc il va sortir bientôt, mais ce que je vais raconter, un certain nombre de choses que je vais raconter sont dans ce rapport, et je vous montrerai quelques données. Alors, il faut rappeler ça, certains le savent très bien, mais pourquoi la biomasse est justement cette forme de carbone bas carbone ? Et ça, c'est, évidemment, il faut dire quelques mots, j'en profite. Alors, vous trouverez des choses plus détaillées hein, dans des cours des années précédentes, parce que j'ai parlé beaucoup plus en détail de la photosynthèse naturelle et artificielle, mais je voudrais redire cette chose fabuleuse qu'est la photosynthèse. La biomasse, c'est... l'ensemble, je donnerai des définitions, hein, c'est l'ensemble, au fond, des molécules carbonées qu'il y a dans la nature, en particulier la végétation, les plantes, mais aussi les microalgues, les cyanobactéries, etc., qui produisent ce phénomène. C'est donc l'ensemble des molécules carbonées qui sont issues d'un processus naturel absolument fabuleux que réalisent les plantes, les microalgues et les cyanobactéries, qui consistent à faire réagir deux molécules qui sont d'une stabilité effroyable. Heureusement d'ailleurs, hein, pour l'eau en tout cas. Le CO2 et l'eau, de faire réagir ces deux molécules pour donner une infinité de molécules diverses carbonées, donc de la chimie organique. Alors, vous comprenez bien que si ces molécules sont très stables, pour les transformer en molécules, il faut apporter de l'énergie. Et justement, cette photosynthèse, c'est le mécanisme qui permet de faire cette réaction grâce à l'utilisation de l'énergie solaire. Et sur les 150 000 terawatts de puissance qui nous tombent dessus, sur la planète, il y a à peu près 200 terawatts de biomasse formée. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, il faut savoir que la puissance consommée par la planète, c'est 17 terawatts. Donc, on voit tout de suite que si on pouvait exploiter toute cette biomasse, on serait largement au-dessus des 17 terawatts. Mais enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, un peu de chimie ou de biologie, mais ça sera peut-être la DIA la plus compliquée. Ceci se passe de la façon suivante. En fait, dans les membranes de ces organismes, de ces cellules, vous avez en vert ici ce qu'on appelle des photosystèmes. Ce sont des molécules extrêmement sophistiquées pour attraper les photons solaires. Ce faisant, leurs électrons sont excités. En étant excités, ils créent des trous qui servent à oxyder l'eau en oxygène. Cette réaction-là d'oxydation de l'eau en oxygène est au fond une sous-réaction de celle qui consiste à transformer le CO2 en molécule organique, de sorte que l'oxygène est un sous-produit de la réaction. Les organismes qui développent cette photosynthèse ne le font pas pour produire de l'oxygène. Bon, par chance, ils en font pour nous, tant mieux, mais ce qui est important, c'est la suite. Ces électrons excités, ensuite, circulent pour aller dans le deuxième photosystème. En faisant cela, ils perdent de l'énergie. Et donc, ils font un deuxième photon qui agit au niveau du photosystème 1. Et ces électrons sont à nouveau réexcités, suffisamment énergétiques, en gros, pour simplifier, pour réagir avec CO2 et produire de la biomasse. Et donc, vous avez des réactions de ce type-là, pour simplifier, de l'eau qui est produite en oxygène et qui est transformée en oxygène, et puis le CO2 qui réagit avec les électrons excités, les fameux électrons excités, pour donner, ici je donne une réaction, cette formule-là, C6H12 aussi, c'est celle du glucose qui est représentée ici. Et en fait, la photosynthèse naturelle est peut-être comprise de la façon suivante. Ici, vous avez une échelle d'énergie, vous avez le CO2 et l'eau très bas en énergie, c'est des molécules très stables. Et au contraire, le glucose, ici, est une molécule à énergie plus élevée. La différence entre les deux, qui se fait au moment de la transformation du CO2 et de l'eau, cette différence d'énergie, c'est de l'énergie, c'est l'énergie fournie par le soleil. Et cette énergie fournie par le soleil, où est-ce qu'elle apparaît ensuite? Est-ce qu'elle disparaît? Non, elle disparaît pas. Elle est dans la molécule de glucose. Elle est dans, et plus spécifiquement pour les chimistes, elle est dans les liaisons chimiques, les nouvelles liaisons chimiques qui constituent le glucose. Donc toute cette énergie solaire se retrouve dans des liaisons chimiques. C'est pour ça qu'on parle de stockage chimique de l'énergie solaire. C'est pas du stockage électrochimique. Le vivant n'a pas mis au point des batteries. Elle fait comme ça pour faire du stockage. Et ensuite, cette énergie sous forme de glucose ici est très intéressante parce qu'elle est riche en énergie, riche de l'énergie solaire qu'elle a transformée, et elle est stockable. Elle peut être utilisée plus tard. Les molécules de glucose, c'est stable. Et ensuite, elle est utilisée, et donc, en quelque sorte, on la brûle, cette molécule. Alors, au niveau cellulaire, pour les organismes vivants qui font ça, c'est pour alimenter en énergie leur métabolisme, leur biosynthèse, etc. Mais quand on récupère un légume et qu'on le mange, ce glucose alimente notre organisme, notre besoin énergétique, et c'est l'alimentation. Et là aussi, il se passe une combustion, c'est la respiration. Voilà, et donc, le CO2 et la biomasse, ça fait partie d'un cycle absolument vertueux entre la nature et l'humanité, en l'occurrence ici représentée par mes petits-enfants. Et en effet, c'est ce dialogue entre photosynthèse qui permet de transformer le CO2 en biomasse et en oxygène, hein, l'oxygène est important, et le phénomène en gros de respiration qui nous permet de consommer cette biomasse, de la brûler grâce à l'oxygène et de fermer le cycle parce que en respirant cette biomasse, en la brûlant pour nos besoins énergétiques, nous redonnons du CO2 et de l'eau et nous fermons le cycle. Donc CO2, ce n'est pas simplement cette molécule affreuse qu'il faut faire disparaître. Heureusement, elle est là, et elle sera là longtemps, sans doute. Oui, c'est une molécule du vivant, c'est une molécule de la vie. J'en profite, j'ai eu dans le passé l'occasion de... Je vous invite, si vous avez un peu le temps, lisez ce texte. Mais je vous invite à lire ce livre formidable hein, de Primo Levi qui s'appelle « Le système périodique ». Ce n'est pas un livre de chimie. Hein. Il raconte sa vie. Ce qui est amusant, c'est que chaque chapitre a comme titre un élément de la classification périodique de Mendeleïev. Et le dernier chapitre s'appelle « Carbone ». Et il décrit de façon merveilleuse la photosynthèse. Hein. Et il rappelle que le carbone, c'est un élément clé de la substance vivante. Voilà, alors il dit « Son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée. L'atome, donc le carbone, accompagné de ses deux satellites, c'est les deux atomes d'oxygène, qui le maintiennent à l'état de gaz, effectivement le CO2 est un gaz, qui doit frôler une feuille, y pénétrer, y être fixé par un rayon de soleil, puis combiné avec de l'hydrogène, en fait c'est pas avec de l'hydrogène, c'est avec des protons et des électrons, pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Je crois que c'est important de se rappeler ça. Alors, Primo Levi, hein, qui est notamment connu pour avoir écrit son expérience dans les camps de concentration, à cette époque-là, évidemment, il n'était pas préoccupé par le changement climatique et par les questions de stockage d'énergie, mais ce qu'il dit, c'est quand nous aurons appris à en faire autant, et donc, évidemment, pour moi, c'est extrêmement parlant, parce que étant impliqué dans ma recherche sur les aspects de photosynthèse artificielle, c'est bien de ça dont il parle. Si nous savions faire de la photosynthèse nous-mêmes, et lui, il conclut, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde, donc il imaginait par photosynthèse artificielle produire des carottes, des légumes, etc. Bon. Voilà, je ne lis pas la suite, mais en tout cas, il rappelle que l'anhydride carbonique, le CO2, constitue la matière première de la vie, et je crois que c'est important de le rappeler, tout de même. Bon, voilà, moi, si j'avais écrit ce texte-là, j'aurais bien aimé savoir l'écrire, mais j'aurais dit, quand nous aurons appris à en faire autant, photosynthèse artificielle, nous aurons résolu le problème du stockage des énergies renouvelables. Voilà, c'est moins poétique, mais bon. Voilà. Alors, pourquoi la biomasse est bas carbone ? Eh bien, vous avez la solution, hein, vous avez la réponse. C'est parce que cette biomasse fait partie d'un cycle, y compris dans celui de demain, où nous l'utiliserons comme source d'énergie, d'un cycle dans lequel le CO2, enfin, cette matière organique, la biomasse, vient du CO2 de l'air par photosynthèse et par combustion, dans tous nos usages, redonne le CO2 et dans un cycle qui est neutre en carbone, théoriquement, hein, c'est le principe, et c'est pour ça qu'il y a autant d'enthousiasme sur cette biomasse comme source d'énergie. On verra qu'il y a aussi des tas de problèmes, mais au fond, on peut dire que la biomasse est la seule technologie aujourd'hui permettant la capture directe du CO2 et sa combustion produit de l'énergie en redonnant le CO2 capturé. Donc, voilà. C'est la base de l'idée selon laquelle on peut utiliser la biomasse comme source d'énergie, parce que c'est plein de molécules énergétiques, mais avec un bilan neutre en carbone à cause de ce cycle. Voilà. Ça, c'est assez intéressant aussi. Pour vous, maintenant, vous situez l'ensemble des différentes sources d'énergie sur un diagramme énergétique. Les molécules les moins énergétiques, alors ici ce sont les enthalpies de formation de ces molécules, et tout en bas, bah, vous trouvez naturellement le CO2 et l'eau, ce sont les molécules qui sont les moins riches en énergie. Je ne rentre pas dans le détail de ce que veut dire une enthalpie, enfin, etc. Vous reverrez ça, les chimistes savent, mais retenez simplement que c'est une échelle d'énergie avec en bas les molécules les plus stables et en haut les molécules les plus riches en énergie. Et la molécule la plus riche en énergie, en kilojoules par mol, donc c'est de l'énergie massique, hein. J'insiste parce que l'hydrogène c'est un gaz et donc en énergie volumique c'est pas terrible, mais en énergie massique c'est la molécule la plus riche en énergie. Et les fossiles, ils sont là, ils sont bien sûr très riches en énergie, d'ailleurs les liquides aussi bien volumiques que massiques, et c'est bien pour ça qu'ils sont si utiles, et en plus ils sont au fond de la Terre, on creuse, on les a, on les brûle, et c'est plein d'énergie. Voilà pourquoi on dépense autant de cela. Vous voyez, la biomasse se trouve à peu près là, et c'est ce que je dis ici, on peut faire des petits calculs comme ça, mais en gros, la biomasse... C'est une ressource qui est pauvre en hydrogène, il y a quelques atomes d'hydrogène, beaucoup plus pauvre que l'hydrogène, hein, H2 bien sûr, et donc c'est un mauvais candidat pour la production d'hydrogène. Et c'est riche en oxygène, ce qui réduit d'ailleurs sa densité énergétique massique. Et on peut résumer la biomasse, en gros, avec toutes ses caractéristiques, à une molécule qui a cette formule, c'est 6H9O4. Et qui a donc un pouvoir calorifique, vous voyez, qui est inférieur à celui des hydrocarbures liquides. L'autre chose intéressante dans la lecture de ça, c'est que vous allez comprendre tout de suite plein de choses. En particulier, c'est que, évidemment, la biomasse est peut être une source d'énergie, elle est au-dessus de l'eau et du CO2, bon, elle est moins intéressante que les fossiles, mais elle est quand même riche en énergie. Parce qu'elle est partiellement oxydée, hein, par rapport aux fossiles. Et donc, vous voyez bien que ce qui s'est passé au cours de la fossilisation de la biomasse, c'est-à-dire, vous savez que les fossiles viennent de la biomasse, avec une transformation au cours de millions, millions d'années, c'est que c'est en gros une perte d'oxygène. Les hydrocarbures, il n'y a pratiquement pas d'oxygène, c'est du carbone et de l'hydrogène. La biomasse, il y a plein d'oxygène. Donc ce qui s'est passé, c'est une réduction. Voilà. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que, vous voyez, pour faire. Voilà, par exemple, pour faire du méthane. Non, pardon. Pour faire de l'hydrogène, et ça, j'en reparlerai. Ben, ça demande moins d'énergie de partir du méthane, vous voyez, puisque la différence est celle-ci, que de partir du CO2. Que partir de l'eau, pardon. Pour faire de l'hydrogène, avec du CO2, on ne fait pas de l'hydrogène. Que partir de l'eau. Donc, ceci vous explique, et je le redirai, pourquoi aujourd'hui on fait de l'hydrogène à partir du méthane, hein, c'est le vaporeformage. Et pourquoi c'est si difficile de le faire à partir de l'eau, et voilà pourquoi l'électrolyse de l'eau n'est pas encore massivement développée et elle est très énergivore. Voilà, c'est un exemple. De la même façon que, vous voyez, produire des hydrocarbures à partir de la biomasse, bah, c'est moins énergie, ça demande moins d'énergie que de le produire à partir du CO2. Et donc, on retrouve là la difficulté de faire des i-carburants, c'est-à-dire partir du CO2 pour remonter ici. Voilà, enfin, ce genre de diagramme est assez utile pour comprendre tout un tas de choses. Voilà, je termine en quelques minutes. Qu'est-ce qui me... Oui, voilà, c'est ça, oui. J'ai 3-4 dias, mais ça peut aller assez vite. Quelle est la situation de la France en termes d'utilisation de la biomasse? Elle n'est pas nulle. Je rappelle, hein, 1600 TWh, la France. Autour de 300 TWh d'énergie renouvelable. Une vingtaine de pourcents. Nous avons 20% d'énergie renouvelable. Mais attention, quand on dit énergie renouvelable, on pense tout de suite éolien solaire. Non. Vous voyez ici, les deux énergies renouvelables les plus importantes, ce n'est pas l'éolien et le solaire. C'est le bois et l'hydraulique. D'accord ? Tout ce qui est biocarburant, biogaz, déchets, c'est un peu moins. L'éolien et le solaire, ça compte pour 15% de ce total-là. Hein. Bon, les chiffres sont traduits ici différemment, mais le résultat, c'est que La biomasse aujourd'hui en France, c'est pas zéro. C'est 170, 180 TWh. C'est déjà 10% de notre consommation d'énergie. Et la plus grosse utilisation de la biomasse aujourd'hui, c'est le bois. Vous voyez, sur les 170, 180 TWh, c'est autour d'une centaine de TWh de bois. C'est la ressource biomasse la plus utilisée en France. Après, il y a un peu de biocarburant, une trentaine de TWh, un peu de biogaz, etc. Donc retenez ce chiffre, hein, 170-180 TWh, et essentiellement le bois et un peu le reste. Voilà. Et je reviens maintenant à qu'est-ce qu'on vise ? Eh bien, ce qu'on vise, c'est... ce qu'on nous dit dans les scénarios, c'est que... il faut pratiquement multiplier par 2,5, presque 3, notre consommation de biomasse si on veut arriver à ces fameux 450 TWh dont on a besoin. Ici, j'ai mis 410, et ça, c'est le scénario SNBC. Finalement, il faut savoir que il faut faire attention à la différence entre énergie finale et énergie primaire, parce que l'énergie finale, c'est celle qu'on consomme, et il y a des transformations de cette biomasse pour arriver à l'énergie finale, donc il y a des différences entre énergie primaire et énergie finale, mais disons autour de 400-450 TWh. Aujourd'hui, les scénarios sur lesquels l'État français travaille, c'est, c'est la SNBC, revisité, hein, c'est pour ça que je mets SNBC2, cette quantité de bioliquide, de biogaz, de biosolide. Alors, vous voyez que les biosolides, ça fait référence au bois, c'est une constante que je répéterai. L'idée, c'est qu'on ne touche pas aux forêts, on ne fasse pas plus de bois. D'accord ? C'est aujourd'hui la philosophie. Pourquoi ? Parce que les forêts, c'est un puits de carbone, elles ne sont pas très en forme en ce moment à cause des modifications climatiques, etc. Et donc la grosse augmentation, elle est sur les bioliquides, les biocarburants. Vous voyez là, c'est un facteur 4. Donc c'est ça qu'on vise. Est-ce qu'on peut faire un facteur 4 en biocarburant ? Et le biogaz, c'est plus qu'un facteur 10, hein, qui est prévu. Donc retenez à peu près ces chiffres, 120, 180, 110 TWh. C'est ça qui est visé. Et ça, c'est une autre représentation de... ça redit à peu près la même chose. Nous sommes aujourd'hui à une dizaine de TWh de biogaz, une trentaine TWh de biocarburant, d'une centaine de TWh de bois, et horizon 2050 dans un scénario SNBC, on passe de 12 à 180, donc vous voyez, c'est même un facteur 15. Donc c'est colossal, hein, ce qui est proposé, on verra comment on peut faire ça. C'est une augmentation d'un facteur 4 des biocarburants liquides, et c'est à peu près une stabilité de la biomasse solide. Voilà. J'avais souhaité donc redire un certain nombre de choses pour présenter la question. Vous donner la raison pour laquelle c'est si important de se préoccuper de la partie non électrique, et pourquoi la biomasse ? Parce que c'est une énergie bas carbone, et parce que c'est la biomasse qui est la plus sollicitée dans tous les scénarios pour remplir cette partie non électrique. Voilà. Et la semaine prochaine, je parlerai de ce que c'est de toutes les classes de biomasse, et de comment on peut les transformer, les utiliser. Et dans le troisième cours, je poserai la question, est-ce qu'on en a assez pour faire tout ça ? Évidemment, au cours de ce parcours, je dirai là où on est dans la maturité scientifique, technologique, industrielle, et là où on ne l'est pas du tout, et quels sont le type de recherche qu'il faut mener pour avancer sur un certain nombre de sujets. Et j'en ai terminé pour cette première heure. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.